T'as remarqué que toutes les bonnes actrices ont leurs initiales qui commencent par... qui sont identiques, quoi. Daniel Darieux, Dédé. Simone Signoret. Parce qu'elle était belle quand elle était jeune. Greta Garbo. Et Anouk Aimé aussi.
Brigitte Bardot aussi.
All right.
Bouf, bouf.
Ah, ils vont se multiplier.
Chut, chut, chut. Venez, on va se mettre en retard pour l'émission.
Ne fais pas de bruit. T'as pas le dos.
On a all to vous.
En 25 ans d'émission, j'en ai jamais raté une. J'ai jamais raté un rendez-vous avec mes auditeurs.
Say it again.
On a all to vous. Now, go away now.
Allez, action.
Action, pourquoi faire?
Nul besoin d'initiales identiques pour être une grande actrice. D'ailleurs, c'est quoi une grande actrice? Eh bien, c'est elle, capable après 75 films de vous faire croire qu'elle n'est pas actrice et que sa mère, c'est Catherine Deneuve. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous. Et vous parlez sur une très belle musique d'Alexis Egay qui a écrit la musique du film.
C'est elle aussi qui a provoqué la première étincelle lorsqu'elle a évoqué l'idée de tourner un jour... avec lui. Bonjour Juliette Binoche.
Bonjour.
C'était au Japon et lui, c'est Corey Eda. 8 ans plus tard, il réalise son premier film en France. La vérité, une mère diva, c'est Deneuve. Sa fille scénariste à New York, c'est vous. Retrouvailles, confrontations et sous les rancœurs. L'amour, mais au fait, c'est quoi une grande actrice? Est-ce aimer le film plus que soi-même? Savoir pleurer devant la caméra? Jouer avec le présent? Observer, se déconstruire, laisser passer la vie en soi. Merci d'être là ce matin, Juliette Binoche, pour répondre à cette grande énigme. La vérité de Corey Eda sort mercredi prochain. Et nous conclurons avec les sorties de cette semaine, avec Willem Dafoe et Robert Pattinson, Notre-Dame, des paroles de bandits et une romance roumaine. Et si on l'abordait de front, cette vérité, avec ce premier extrait.
C'est quoi ça, maman? Maman, tu te fiches du monde, là, hein? Moi, j'ai du mal à voir où est la vérité là-dedans. Attendre ma fille devant le portail de son école et la voir arriver vers moi en courant me mettait en joie. Lumière était toujours l'une des premières à sortir et nous rentrions à la maison, main dans la main. Elle me racontait alors sa journée dans les moindres détails, mais c'est jamais arrivé une seule fois. Les seuls qui venaient me chercher à l'école, c'était papa ou Luc. Je me balade pas pour le plaisir, là, tu vois, j'apprends mon texte. Non, mais je rêve. T'as mis des post-it? Mais quoi, mais tu prépares... tu fais une recherche sur moi, tu prépares un examen. Un examen en Fabienne, hein, première année, deuxième année. N'importe quoi. Je suis actrice, hein, je peux quand même pas raconter la vérité toute nue. Surtout que la vérité n'a rien de passionnant.
La vérité n'a rien de passionnant. Là, on est au cœur du sujet. Quelle vérité? Celle de la mère Fabienne Deneuve qui publie ses mémoires ou celle de la fille Lumière, c'est vous, Juliette Binoche, qui la retrouve à cette occasion. À l'origine, la vérité est une pièce que Corey Eda avait écrite en 2003, une nuit dans la loge d'une grande actrice, et désormais l'histoire d'une actrice de cinéma et de sa fille, dit Corey Eda, qui a renoncé à devenir actrice. Et pour son scénario, en fait, Corey Eda vous a écouté, vous a posé beaucoup de questions, dit-il.
Oui, il a joué le rôle du journaliste, ouais, pour avoir des réponses à toutes les questions, parce que c'est pour lui quand même un mystère, hein, ouais. Le jeu. Il se prétend pas du tout connaisseur en fait de comment ça se met en route à l'intérieur d'un acteur pour jouer. Donc,
mais les femmes sont pas un mystère pour lui.
Les femmes?
Oui.
Ah, elle, ça l'est pour moi en tout cas. Je sais pas si ça l'est pour vous. Mais...
Non, mais pour lui peut-être parce que. Non, mais d'abord c'est un film. J'y vais très vite, mais c'est un film qui fait la part belle aux femmes parce que les hommes là-dedans. Ils sont un peu,
ils le voient
dans les coulisses.
Peut-être parce qu'il a été élevé beaucoup avec des femmes, Corey Eda. Je pense que c'est aussi à cause de ça qu'il a cette, je sais pas si c'est dévotion, mais amour, disons, plus évident pour le féminin. Et d'ailleurs, il est assez doux lui-même. Il a une féminité, je trouve. Qui est aussi masculine pour moi.
Ouais. Dans un film précédent, elle perd tel fils. Et d'ailleurs, ce sont les femmes qui prennent l'ascendant, qui font que cette situation incroyable de l'inversion des bébés devient plus facile à vivre. Les pères, eux, sont un petit peu à la ramasse, quoi. Ça reste
oui,
un
ils
peu
sont dans l'ombre, mais oui. Comme il m'a dit, je voudrais que Lumière, donc mon personnage, la fille de Catherine Deneuve dans le film, soit dans l'ombre. Donc il m'a
quand
dit.
Quand on s'appelle Lumière, c'est difficile. Mais enfin bon.
C'est Catherine qui a choisi le prénom parce qu'on m'a demandé comment est-ce que je voulais être nommée. J'avais demandé à ma maman. Ouais. Ce sera plus facile.
C'est le nom d'une des filles de Truffaut, sauf erreur de ma part.
Oui, oui, et d'un personnage d'une pièce de Claudel aussi.
Il paraît. Voilà.
Donc, rester dans l'ombre, c'est vrai qu'il faut l'accepter quand on est actrice comme vous.
Oui, mais on accepte toutes sortes d'étrangetés quand on est acteur, hein, d'aller au fin fond des bas-fonds, et puis d'aller en haut de la montagne, dans les lumières, ça dépend, il n'y a pas de hiérarchie, pour moi, tout est valable.
Le film est une véritable mise en abîme de votre métier avec ce film de science-fiction à l'intérieur du film, celui que Fabienne tourne et dans lequel... Quand même, elle incarne la fille âgée d'une mère éternellement jeune. Réalité et fiction ne cessent de se croiser. Il y a des doubles sens partout, il y a des allusions dans toutes les répliques. On croit qu'un personnage est comme ça, il n'est pas si clair, il est plus obscur que ce qu'on croyait. Il est très subtil, ce scénario.
Il est très subtil et il continue à écrire quand on tournait. Et ça, j'ai bien aimé parce que en fonction des rapports ou des émotions qui se partageaient, parce qu'un metteur en scène est souvent surpris de ce qui se passe devant sa caméra. Il peut l'imaginer avant de tourner, mais au moment où ça se passe, il est lui-même pris, embarqué dans un bateau et il ne sait pas quelles vagues soutiendront ce bateau. Mais il a, par exemple, la petite scène à la fin du film quand ma fille revient de voir sa grand-mère. Et tout d'un coup, on comprend que c'est elle, Lumière, la scénariste, qui manigance tout ça.
Ouais.
Il l'a écrite au moment où on tournait. Et ça, c'est, il était tout content, je me souviens, un matin.
Il a raison, parce que c'est vraiment...
Oui, c'est une jolie scène.
Oui, c'est une belle idée aussi.
Oui, une belle idée. Oh. Oui, parce que ça retourne complètement la situation du film.
Ouais. Les rapports mère-fille un peu compliqués. C'est vrai qu'on... Souvent, avec sa mère, on rappelle des vieilles, vieilles histoires, comme vous, avec Deneuve, dans ce film à propos du magicien d'Oz.
T'es jamais venu voir la représentation que... La pièce que j'ai jouée au collège, tu te souviens pas?
T'es sûre?
Ben oui, certaine. Le magicien d'Oz, tu te souviendrais, non?
On est bien d'accord, tu jouais pas Dorothée. L'épouvantail?
Non. Non, celle qui assistait à mes représentations et qui me réconfortait quand j'avais un chagrin d'amour, c'était Sarah.
Oui, peut-être. Enfin, c'est quand même mieux que si je t'avais négligé et qu'en même temps, je m'étais immiscée dans ta vie privée, non?
Toi aussi, t'as passé du temps dans un vaisseau spatial.
Ah oui, j'ai l'air si jeune que ça?
Pas vraiment ce que j'ai voulu dire.
Ah, c'est maintenant que tu te rends compte. Mais j'ai jamais aimé vivre sur Terre.
Il y a la voix, mais en plus, il y a le geste. Elle est merveilleuse. C'est compliqué de se mettre au rythme de Catherine Deneuve parce qu'elle a un staccato très précis, un rythme. Est-ce qu'elle l'a modifié pour... Non.
Non, moi, j'ai pas... Non, après, c'est une histoire de sensibilité, de sentir ce que l'autre donne. Et non, on a eu beaucoup de plaisir, je crois, je suis sûre, à jouer ensemble, parce que il y a un côté ping-pong dans ce film là entre elle et moi, dans le sens où il faut se relancer la balle, que ça doit rester assez léger parce que c'est une comédie et comme Corrida nous l'a dit dès le départ qu'il avait envie que ce soit une comédie, mais à la fois quand il faut plonger, il faut y aller aussi quoi, il faut marquer certains points pour avoir disons les racines, la racine du mal quelque part.
Pour revenir à la scène qu'on vient d'écouter, sans s'immiscer dans votre vie privée, mais c'est vous qui en avez parlé, c'est exactement l'inverse qui s'est passé avec votre mère, parce que votre mère, elle assistait bien à la représentation théâtrale du jeu de la feuillet, vous étiez en cinquième, et c'est
plus
même elle...
Plus qu'elle...
C'est celle qui a écrit notamment le monologue que vous disiez.
Oui, c'est vrai, mais c'est elle qui l'a mis en scène, donc c'est normal qu'elle soit dans les parages.
Mais c'est quand même exactement l'inverse, quoi, que vous avez vécu une relation...
Oui, mais c'est vrai que les fêtes de fin d'année, on a souvent des danses ou un petit spectacle. Ouais. Et c'est extrêmement important quand les parents viennent. Oui, oui. Ça, c'est incroyable. Et ma mère est venue. Mère est venue. Si, je m'en souviens.
Voilà.
Après, c'est différent dans l'adolescence. Je trouve qu'on commence peu à peu à vivre un peu sans le regard de ses parents.
C'est joli la référence au magicien d'Oz, parce que là encore, c'est pas anodin, hein, c'est la psyché, c'est le conscient et l'inconscient. Donc il arrive même à injecter ça dans le film, comme ça, au passage. Quoi.
Et puis, Catherine a un petit chien qui s'appelle Toto.
Oui, c'est ça.
Tout est dans tout.
Ouais. Et Kore-eda, donc, cinéaste japonais, qui vient en France avec une équipe française, qui ne parle pas français. Comment ça se passe en termes de direction?
Alors moi, comme j'étais un petit peu habituée à cette configuration, non, j'ai pas été plus surprise que ça ou plus embêtée que ça. D'autant plus que ça m'arrivait de parler en anglais directement. D'ailleurs, Catherine m'a fait remarquer, mais il ne comprend pas l'anglais. Je dis, bah si, il comprend, tu vas voir. Et parce qu'il vaut, mieux imaginer que la personne comprend. Parce qu'il y a des choses qui passent, même quand on parle, et que la personne ne comprend pas les mots. Il y a quelque chose qui passe. Donc, faisait la traduction, évidemment, la traductrice, mais je sais que Catherine a été beaucoup plus gênée que moi. Le fait de ne pas avoir un rapport direct et de ne pas pouvoir s'entendre et s'écouter et parler la même langue.
Il est comment quand il est content, Kore-eda? Il fait quoi?
Et il a les yeux qui brillent, il sourit, et voilà, ça suffit.
Ça suffit. Il y a aussi donc cette donc à nouveau dans ses rapports ce livre que cette mère écrit et dans lequel elle dit pas forcément toute la vérité, et vous arrivez quand même à obtenir une discussion, une explication peut-être pas extraite.
Je pardonnerai jamais ce que t'as fait.
Damien,
stay out of this, please. Mind your business.
Mais pour qui tu te prends? Pour décider que tu me pardonnes ou pas. Il y a quelqu'un qui peut ne pas pardonner, c'est Sarah.
Merde,
mais...
il a bu.
Bon, c'est vrai, j'ai été une mauvaise mère, une mauvaise amie. Et alors, hein, je préfère avoir été une mauvaise mère, une mauvaise amie et une bonne actrice. Et si toi, tu ne me le pardonnes pas, le public me le pardonne. Je ne sais pas pourquoi je te dis tout ça, parce que tu ne peux pas comprendre ce que ressentent les acteurs.
C'est quand même drôle, ça, non? Ouais. Vous avez ri ou pas toutes les deux de tous ces sous-sens, sous-textes?
En fait, comme je l'ai attaqué, hein, dans la scène, je l'attaque beaucoup.
Oui,
hein,
ouais.
Et je crois qu'elle s'y attendait pas. Et Kore-eda non plus. Parce qu'il avait dit, comédie.
Et pourquoi vous êtes, vous avez pensé, pourquoi vous avez pris cette
option-là? Parce que il faut bien aller à un réel conflit. Parce qu'il y en a, quand même un. Elle a écrit son livre où elle raconte des mensonges. Et il s'agit de mon enfance, ouais, de ma petite fille.
Ah, vous l'êtes approprié, vous, alors?
Non, c'est pas ça. C'est que c'est une trahison terrible, ouais, pour un enfant d'entendre des mensonges. Mmh. Et donc, au départ, elle la confronte d'une façon un peu, elle essaie de, comme on a entendu l'extrait là, d'une façon un peu légère. Mmh. Mais à un moment donné, ma mère, donc Catherine Deneuve, dans le film, attaque mon mari en disant, en gros, que c'est un mauvais acteur. Mmh. Et comme j'arrive quand même dans cette maison avec en présentant mon mari, que j'ai réussi aussi, mon mari, mon enfant, etc. Alors que elle a pas réussi ça. Ouais. Je pense que je suis terriblement blessée à ce moment-là, et donc il faut que je n'en envoie une. Donc à la fin de la prise, elle m'a dit, ah d'accord, Catherine, ah, t'es vraiment vicieuse là, hein. t'es serpent, hein, c'est vicieux ce que tu fais. Je dis, bah attends, il faut voir ce que t'as fait. Mais je pense que au départ elle était surprise, mais après c'était un bonheur, hein. Toutes les scènes qu'on a faites par la suite, il y avait le bonheur de se retrouver et de voir où ça allait aller. Ouais. Parce qu'on explore la scène, on sait pas quel résultat va y avoir. Et c'est vrai qu'une prise peut être très différente l'une de l'autre. Après, ça a été le travail des traducteurs et le travail de Kore-eda de choisir et de comprendre dans le langage ce qui paraissait le plus vrai, le plus juste, le plus excitant pour le film.
Kore-eda dit, dans le résumé que je disais tout à l'heure, il disait, c'est l'histoire d'une actrice et de sa fille qui n'a pas voulu être actrice. C'est comme ça que vous la voyez aussi? Moi, je la voyais plus comme une fille qui s'assume comme scénariste.
Moi aussi, tout à fait. Je suis d'accord avec vous. C'est vrai que dans le film, ma mère dit oui, que t'as voulu être actrice, alors peut-être que ça lui a traversé l'esprit, mais je crois le fait déjà d'habiter loin de sa mère, c'est-à-dire d'avoir un petit, ouais, océan entre, ouais, les deux, mmh, puisqu'elle vit à New York, ouais, et qu'elle est scénariste, donc vraiment un autre métier, même si c'est relié au cinéma, fait qu'elle... Elle a trouvé sa place, oui.
Enfin, elle ne veut pas lui ressembler, quand même. Donc, la volonté de ne pas être actrice, c'est la volonté de ne pas lui ressembler. Et la scénariste, c'est aussi écrire des choses pour les actrices, c'est-à-dire dire, moi, j'écris pour l'actrice, mais je ne la fais pas.
Oui, et puis, quand on est passionné, c'est un peu les conversations que j'ai avec ma fille d'ailleurs, qui a voulu à un moment donné être actrice. C'est vrai que c'est peut-être impressionnant d'avoir comme parents des acteurs, mais c'est la passion de ce qu'on doit faire hein, qui nous prend, qui prend. Moi, je conçois tout à fait qu'il y ait deux actrices de générations différentes qui soient qui aient une force indépendante. Moi, souvent, je donne l'exemple de Renoir. Quand on pense au peintre Renoir et à Jean Renoir, cinéaste, ils sont tous les deux quelque part derrière la caméra et aussi forts l'un que l'autre, mais différemment aussi.
Et d'ailleurs, Catherine Deneuve a une fille actrice.
Tout à fait.
Et votre fille ne le sera pas.
Apparemment pas. Mais bon, vous savez, la vie, hein.
Il y a eu un déclic de nom.
S'exposer comme acteur, on ne sait pas à quel point c'est difficile. Hein. Ouais. C'est une exposition que certaines personnes supportent et d'autres moins. Et ça, je le comprends tout à fait parce qu'il y a l'idée quand même de se mettre à nu, au sens figuré, au sens propre. Et il faut vivre avec ce regard, avec cette attente, avec les jugements, avec les voilà le cette aussi c'est des regards de d'admiration. C'est pas facile hein, d'être dans cette position, d'être neutre finalement, de comprendre que aussi bien les enthousiasmes que les déceptions appartiennent aux personnes et ont rapport avec elles-mêmes, avec leur vie, avec leur sensibilité, avec ce qu'ils attendent ou ce qu'ils attendent pas, ou leur jugement parfois rapide ou juste, peu importe. Mais en tant qu'acteur, il y a moi, je sais que je lis pas ou je n'écoute pas en fait forcément ce que les autres ressentent parce que c'est trop lourd quoi. J'ai envie d'être libre et de passer d'un film à l'autre avec une certaine pas désinvolture mais disons risque qui n'est pas je ne connais pas les conséquences et je veux pas les connaître. Oui. Voilà.
Alors il y a beaucoup de réflexions sur le métier d'actrice dites par vous ou dites par Deneuve dans le film. Ce qui nous amène à ce petit jeu de la vérité que je reprends en fait des questions du film que je vais vous poser Juliette Binoche. Je vais vous tutoyer parce qu'elle la tutoie à ce moment-là. Juliette, tu t'aimes toi ou t'aimes tes films?
Bah, il faut s'aimer un minimum pour pouvoir donner dans les films. Donc, ça veut dire quoi de s'aimer? Ça dépend de quel amour on parle. Mais aimer s'oublier, ça fait partie de l'amour.
Est-ce que vous avez déjà quitté un plateau?
Oui. Lequel?
Pas forcément, mais pour...
Non, moi je veux bien raconter, ça m'est égal. Sur Fatal.
De Louis Malle. Avec Jeremy Irons,
à un moment donné, bon, il y avait des tensions entre Jeremy et moi, depuis le départ d'ailleurs. D'ailleurs, le premier jour de tournage, on fait une scène sous un porche où on est censé faire l'amour.
Oui, je me souviens de cette scène.
Et c'est le premier jour de tournage, c'est quand même pas mal hein, dans le côté plan de travail. Ouais. Et il m'écrase tellement contre le mur, je n'arrive pas à dire la phrase que j'ai à dire. Donc je dis à Jeremy, ce serait bien que... tu me presses moins parce que je n'arrive pas à dire ma phrase. Une prise, deux prises, trois prises, toujours pareil. Et à la fin de la quatrième prise, je fais « Ah !» parce que je n'arrivais pas à respirer. Et il s'est vexé et il est parti du plateau. Donc là, c'est lui qui est parti. Oui. D'accord ? Ça démarre comme ça, le film, c'est pas mal.
Ouais, pas mal.
Et puis ensuite, quelques semaines après le tournage, on est en studio chez Burton, si mes souvenirs sont beaux, en Angleterre, près de...
Si mes souvenirs sont beaux, j'adore.
Sont beaux et beaux.
Ouais.
À un moment donné, il rentre dans ce petit appartement qui est un peu notre lieu de
votre
amoureux,
refuge, ouais.
Refuge et caché des yeux, voilà. Et il imite la façon dont je joue. Je dis, ah oui, d'accord, donc tu voudrais que je joue comment? Et il me montre la façon dont je dois jouer. Et à partir de là, j'ai pris mes clics et mes claques et je suis partie du studio. Je suis partie, mais comme j'ai marché comme un espèce de zombie en dehors, j'ai passé la grille et puis j'ai marché le long du studio et il y avait des moutons d'ailleurs, je me souviens, des vallées, des moutons et j'ai marché un kilomètre et à un moment donné j'ai dit mais qu'est-ce que je fais ? Donc je suis revenue à ce moment-là. Et Louis est venu dans ma loge et il m'a dit, je m'excuse, bon, je sais pas quoi faire, quoi. Il était en fait assez passif, Louis, pendant ce tournage-là, et ce qui m'a d'ailleurs blessée. Mais Jérémy, ça a été difficile. Et après, on s'est reparlé et je lui ai dit, t'as été un enfer sur ce film. Et il s'en souvient pas du tout. Il parle du film comme d'une expérience agréable. Et bon, mais bon, il a aussi une petite réputation, mais il n'empêche qu'il est excellent dans le film. Il est extraordinaire dans le film.
Ouais,
c'est un acteur incroyable et d'une intelligence. D'ailleurs, quand on dîne avec lui, on déjeune, il est très agréable et je répète, intelligent, mais sur un plateau, ça a été un enfer. Voilà.
Est-ce que vous avez déjà viré quelqu'un d'un plateau, comme Deneuve le fait, un regard qui la gêne dans une scène?
Alors, virer, non.
Enfin, je veux dire, demander à quelqu'un de s'éloigner. Parce que, est-ce que vous aimez, parce que vous n'aimez pas trop des regards entre vous et la caméra ou le partenaire?
Alors, quand il y a on va dire, un technicien qui mange un sandwich quand vous êtes en train de pleurer, et vous êtes agenouillé, c'est un peu difficile. Ou alors, vous commencez un film et vous n'êtes pas sûr de vous, et vous avez un, voilà, un assistant caméra qui est assis sur la caméra, auprès de la caméra et qui envoie des textos ou qui répond à des messages. C'est un peu difficile. Donc, parfois, on essaie de, en fait, mon truc, c'est de jouer tellement bien qu'ils sont obligés de regarder ce qui se passe. Donc, je le prends comme une espèce de gageur,
de défi, oui,
de défi que je dois attirer leur attention pour qu'ils n'aient plus envie de mâcher ou plus envie de regarder leur portable.
Est-ce que, comme Deneuve dans le film, vous avez déjà demandé de retourner une scène après le tournage?
Alors, non. Mais par contre, parfois, il y a des metteurs en scène qui m'invitent au montage. Et là, quand ils sont ouverts à ça, je leur parle d'une partie du montage ou de quelque chose.
Non, c'est rare, les acteurs qui vont.
C'est rare, mais quand la confiance est là, ça arrive. J'ai même eu le producteur de Chocolat, qui était une productrice, en fait. Qui m'avait demandé de voir le film, m'avait demandé si j'avais un plan qui me gênait. Il y en avait un qui me gênait et ils l'ont changé. Et j'ai trouvé, mais quelle merveille de confiance. Et ce qui fait que quand on défend un film, on le défend encore plus quelque part parce qu'on est impliqué. Je pense aussi, il y a Sa Fine Boue, par exemple. J'ai regardé le film avec 4-5 montages différents et il était, parce qu'on a fait vraiment ensemble le film pendant le tournage et il m'a invité à ces étapes différentes et c'est un bonheur parce que c'est un moyen de vraiment de réfléchir, de partager ensemble.
Est-ce que vous vous êtes déjà servi d'un chagrin d'amour pour nourrir un rôle?
Ah, mais plus d'une fois, je vais vous dire. Ah oui, bah oui, ça c'est. Oui. C'est merveilleux, les chagrins d'amour. Il y a tout dedans.
Ça amène les. On pleure plus facilement, du coup. On est plus.
Mais on se sert de tout ce qu'on peut quand on est acteur, tous les recoins possibles.
Mais quand on est malheureux, on arrive à jouer quand même, parce que parfois on est très malheureux.
Ben oui, mais c'est il faut bien un petit peu de difficulté dans ce métier, sinon parce que c'est un métier de privilège.
Et si c'est une comédie, c'est compliqué.
Pareil, ça doit être ancré dans quelque chose de vrai, quelque chose de profond. Même si c'est une comédie, enfin, en tout cas pour moi, si c'est juste dire des mots de façon comique, pour moi, c'est pas relié à une humanité qu'on a et qu'il y a derrière. Donc, toujours, c'est relié à une quelque part à une tragédie, mais c'est souvent plus dans l'enfance, parce que c'est ces mémoires-là qui à jamais vous restent comme imprimées en vous. Donc c'est ces mémoires qui sont les plus profondes et les plus vraies. Et c'est souvent les rapports aux parents ou souvent c'est la raison pour laquelle, à mon avis, les bons acteurs ont souvent des enfances difficiles, avec des failles, parce qu'ils ont un sens de la compassion, ils ont un sens de l'autre, parce qu'ils l'ont connu très tôt et profondément.
Gros sujet là, mauvaise mère, bonne actrice, ou bonne actrice et mauvaise mère?
Alors, je dis pas que j'étais une mère parfaite, loin de là, et mes enfants, enfin surtout ma fille est là pour me le rappeler, mais en tout cas on en parle et je pense que c'est important de dire pardon quand on a manqué des moments importants. C'est vrai que je suis partie, j'ai quelques moments comme ça où je me dis mince, j'espère qu'ils n'ont pas trop souffert. C'est quand je suis partie en tournée pour la danse. Et là, c'était difficile de les prendre avec moi parce que sinon, je les ai pris un peu partout.
Mais être une bonne actrice, c'est important pour vous. Je veux dire, c'est
pas,
là-haut.
Mais c'est pas par rapport à soi, c'est par rapport aux autres. On fait ça par rapport aux autres, par rapport à réveiller, éveiller l'autre, quelque chose de leur vie. Il s'agit pas de soi. Moi, ça m'est égal que d'être bonne actrice ou pas.
Bah,
maintenant, à l'arrivée, je m'en fiche, mais totalement. J'espère que sur le lit, sur le lit de ma mort, c'est pas ça. On fait ça pourquoi? C'est à nous d'encenser les autres, d'être vecteur de vie, d'être vecteur de réveilleur de vie.
Mais pour ça, c'est un sacré investissement qui peut peut-être effectivement
bâtir. Oui, mais le but n'est pas d'être un bon acteur. D'accord. Ça sert à rien d'être un bon acteur. Mais par contre, de bouger quelque chose chez les autres, ça sert à ça.
Il y en a où vous voyez qu'ils veulent être des bons acteurs et qu'ils sont pas à l'arrivée, ça marche
pas. Alors je comprends que quand on est jeune, on a envie, parce qu'il y a quelque chose, on a envie d'être connu, parce que on a des doutes aussi par rapport à ses parents ou par rapport on a envie de plaire, on a envie d'être aimé. Mais il y a un moment donné où les choses évoluent quand même. On dépasse certaines choses. Et le vecteur de dire oui à un film, c'est pas par rapport à si on va être le plus connu possible. Il y a un moment donné où les charges sont changées. Il y a une envie de parler de ce thème-là ou de celui-là sans être parce que c'est pas les thèmes qui font les bons films, hein, on le sait ça. Oui. Mais c'est aussi par rapport à une rencontre artistique, soit parce que il y a quelque chose en soi qui va être poussé, qui va être ouvert ou qui va être emmené.
Alors exemple concret avec ce film La vérité de Kore-eda, qu'est-ce que vous avez voulu faire passer justement, si c'est pas vous en premier?
Alors c'est vrai que j'avais envie de travailler avec Kore-eda depuis des années. Et j'ai vu ses films et je trouvais qu'il y avait une finesse d'esprit, de sentiment, il s'approche de la vérité, de la vie, dans sa façon d'écrire, qui me rappelle totalement Anton Tchekhov, parce qu'il y a, il juge jamais ses personnages et on voit leurs ombres, on voit leur lumière, il y a une douceur de vie à la fois, une profondeur et une acidité. Il y a tout à la fois. Le fait qu'il ait envie de risquer un film hors de son pays, je trouvais ça très excitant. Parce que faire sortir un Japonais, c'est pas évident non plus. C'est vrai, parce que il y a un côté, il y a une telle force dans leur tradition, dans leur pensée, dans leur art.
Il y a quoi de japonais dans le film d'ailleurs? Il y a quoi de japonais en fait? Le mouvement des saisons, par exemple, c'est joli.
Oui, mais on peut pas le voir d'une façon trop extérieure non plus, parce que Kore-eda, il le sait pas. Il est lui-même.
Ouais.
Il se sensibilise à d'autres situations. Quand il nous interviewe, il a interviewé Catherine 2-3 heures et moi pareil. À partir de là, il a piqué des idées et puis il en a fait quelque chose en le mélangeant à une pièce qu'il avait écrite bien avant. Donc, et puis il était très en admiration avec cette actrice qui était dans plusieurs de ses films, je me souviens plus de son nom là, mais qui est morte cette année
qui l'a
complètement chamboulé et qui était comme une seconde mère pour lui. Donc tout ça, c'est un amalgame de choses. Il a eu envie d'en faire ce film qu'il savait pas ce que ça allait être. Il explore lui-même, il l'aimait. Alors c'est vrai qu'il y a l'arbre qui perd ses feuilles, on pense tout de suite au Japon. Soit, bravo, on l'avait trouvé ce moment-là. Mais il y a eu plein.
J'ai honte.
Et quand la fiche,
et la tortue dans le jardin. La fiche est très japonaise aussi.
Oui, on le dit
elle
aussi.
Elle est très belle, la fiche.
Magnifique, la fiche, oui.
Ça s'appelle La vérité, donc. La vérité dans une scène. C'est quoi pour une actrice? C'est-à-dire, c'est un mensonge, ce que vous faites, et en même temps, c'est la vérité. Quand est-ce que vous sentez que c'est la vérité, il y a la vérité d'une scène?
Alors, c'est vrai que ce ne sont pas nos mots qu'on reconstitue, il y a un décor, on reconstitue la vie, mais à l'intérieur, l'œil de la caméra est énorme. C'est vos yeux à vous. On ne sait pas combien de personnes et quelque part peu importe pour celui qui joue, mais c'est une sorte de rentrée en nous-mêmes, de face à face. moi, la caméra me provoque dans ma propre, alors, vérité. En tout cas, j'ai besoin d'être vraie en face de la caméra. Et ça, il me faut plusieurs prises. Parfois, c'est la première prise qui fait que c'est là, c'est vrai, même si c'est transposé dans une écriture qui est pas forcément la façon dont on parle, d'un accent qui est pas forcément l'accent que je parle tous les jours. Mais il y a au fond de soi un lien dans quelque chose qui est que j'ai relié à une mémoire vraie que j'ai vécue souvent et qui est transposée dans un monde. Donc c'est comme ça que ça se passe. Hein. C'est comme une opération de l'esprit, du cœur et du corps et des émotions, parce qu'il y a une marche à cœur ouvert de toutes les façons.
Vous parliez d'accent. Tiens, justement, on va vous faire écouter. Ben, vous le connaissez par cœur, c'est Cécile Smaria, dans lequel vous parlez en anglais.
We had an affair when we were shooting Maloya Snake.
Yeah, I couldn't tell.
Well, I was 18, kind of dumb, and you really took advantage. After the shoot, I never heard from him. It destroyed me.
I'm sure you've run into him since.
We made another film together afterwards.
Which one?
You don't want to know. Tolstoy adaptation, German producers. Who cares? Well, 10 years later, I was famous. Then he was interested. And he kept harassing me, calling me in the middle of the night. But I didn't give in, and that he hated. And he made me pay for it every single day of the shooting.
C'est la même vérité en anglais et en français, ou c'est autre chose?
Ça demande plus de travail, c'est sûr.
Mais comme vous intégrez vous l'apprenez comme vous apprenez un texte français, mais c'est moins inconscient peut-être, non?
Non, c'est-à-dire que l'erreur, c'est d'apprendre le texte, en fait. c'est plus être en relation avec qu'est-ce qui se passe en moi? Pourquoi je le. C'est comme une fondation intérieure qui doit être là, émotionnellement, et c'est pour ça que le début de la journée est importante pour moi, parce que je rentre dans une sorte de labyrinthe émotionnel où il y a des étapes différentes. Ça, je l'ai appris. Enfin, je le faisais d'une façon intuitive seule. Et quand j'étais plus jeune. Et ensuite, quand j'ai rencontré Suzanne Batson, qui est donc une coach qui m'aide pour jouer, pour en tout cas construire une préparation, disons.
Mais comment ça se fait?
Attendez, j'allais vous raconter un truc super intéressant.
Allez-y, pardon.
et à ce moment-là, dès le début de la journée, je rentre là-dedans, ouais. Et à un moment donné, je lâche, c'est-à-dire je n'y pense plus à la préparation. Ouais. Et c'est là. Et quand je joue, il y a le moment présent, le moment où on tourne entre l'action et coupé, avec l'acteur et avec le soutien de l'équipe, du chef opérateur et surtout du metteur en scène, avec son regard et son écoute, il y a dans ce présent quelque chose qui se passe. Et ça, c'est la qualité du silence, c'est la qualité de l'écoute d'un acteur à l'autre, c'est la qualité de son écoute à soi, de pas aller trop vite ou d'aller très vite, mais c'est le corps qui prend sa mesure, qui prend son rythme. C'est pour ça, quand on écoute Catherine Deneuve, par exemple, qui parle dans La Vérité, il y a une musique chez elle qui est vraiment lui appartient. Et elle le travaille pas dans le sens où elle a toujours fait un peu comme ça, où, disons, moi je sais, il y a quelque chose qui m'a intéressée, elle m'a dit, un jour, parce qu'elle était très fragile et inquiète, et elle a demandé à Mastroianni comment faire avec cette fragilité-là. Elle dit, mais tu t'en fiches complètement, les choses vont venir, ne t'en fais pas. Donc elle a pris une autre forme de confiance, et c'est vrai que quand elle descendait de la maison, parce que sa loge était en haut, au premier étage, quand elle descendait, elle avait toujours une petite cigarette dans la main, et genre, je m'en fiche, je sais pas vraiment mon texte, c'est pas très grave, ça va venir, donc on répète, puis à un moment donné, il y a une mémoire qui prend route en elle, et à ce moment-là, les choses viennent, mais d'une façon vraiment dans ses pensées. Elle a une façon de faire qui est... Parce que je lui ai demandé, mais comment tu travailles? Elle me dit, je travaille pas vraiment, je lis la scène plusieurs fois, et à un moment donné, ça rentre dans mon inconscient, et ça vient au moment où on répète et on tourne.
Ça s'appelle La Vérité de Corée Eda. Vous restez bien sûr avec nous, Juliette Binoche. On va écouter Philippe Catherine, et après on se retrouve pour les sorties.
Il fallait tourner avec Hitchcock, le rôle principal.
Ah oui?
Malheureusement, il est parti trop tôt.
J'avoue, j'aurais bien aimé voir ça. Hein.
Tu serais morte, assassinée, comme ça, là.
Vous ne savez pas écrire, vous ne savez pas lire, vous savez tout et bien pire, mais vous ne pouvez le dire. Moi, ce que j'avais compris, le rêve n'est pas fini quand le réveil sonne. Comment je vis, pourquoi je suis, toi tu t'en fous, tu n'es pas fou, tu dessines des bonhommes, et toi tu regardes ton chewing-gum. Ce que tu vois, je ne sais pas. Ce que je vois, ça met en joie. Tu dessines des bonhommes. Et toi, tu colles ton chewing-gum sur ma tête. Sur ma tête. Je sais qu'il existe une forêt oubliée, mais je ne sais pas par où passer. Je ne sais pas lire en toi, en toi.
Qu'il est bête.
Vous ne savez rien des migrants, des guerres civiles au Soudan, le Bataclan et Charlie, vous n'avez pas tout saisi. Ce que vous avez compris, le rêve n'est pas fini quand le soleil donne. Comment je vis, pourquoi je suis, toi tu t'en fous, tu n'es pas fou, tu dessines des bonhommes, et toi tu parles avec un chewing-gum. Ce que tu vois, je ne sais pas. Ce que je vois, ça met en joie. Tu fais planer des bagnoles. Et toi, tu fais le rossignol dans ma tête. C'est la fête.
La disparition d'une actrice, d'une égérie et d'une chanteuse, Laurent, c'était Anna Karina.
Oui, et d'ailleurs, on vient d'écouter Philippe Catherine, et c'était un grand complice musical d'Anaka, absolument. 70 films et 7 Godard, voilà, 10%. 10% de Godard, c'est pas mal dans une carrière, évidemment, c'est assez rêvable. Et le couple artistique, le reste, ça leur appartient, qu'ils ont formé, était assurément un superbe couple. Il a filmé comme rarement, je crois, un metteur en scène a filmé une actrice avec un tel amour. Et puis, il y a aussi, je dois le dire, un film d'elle, réalisé par elle, qui s'appelle Vivre Ensemble, avec Michel Lancelot, et qui est un film très très intéressant sur un moment à la fois de sa vie, mais un moment aussi de la France, comme ça. Et il faut le revoir, ce film, qui est sorti récemment en DVD chez M6 Vidéo, je le signale, parce que franchement, c'est une rareté. Et puis, il y a une comédie musicale aussi, avec elle, qui était très belle. Et puis, il y a un accent, il y a un rire, il y a un charme fou.
On la réécoute dans Pierrot le Fou, bien sûr.
Eh oui, c'est la vie.
Oui, mais ce qui me rend triste, c'est que la vie et le roman, c'est différent. Tu voudrais que ce soit pareil. Clair, logique, organisé. Mais ça ne l'est pas.
Si, beaucoup plus que les gens ne le croient.
Non, Pierrot.
Votre dire de m'appeler Ferdinand.
Oui, mais on ne peut pas dire mon ami Ferdinand.
Si. Suffit de vouloir, Marianne.
Je veux. Je ferai tout ce que tu voudras.
Moi aussi, Marianne.
Tu mets ma main sur ton genou.
Moi aussi, Marianne.
Je t'embrasse partout.
Moi aussi, Marianne.
Ce que t'es belle, ma pépé. Ce que t'es belle, ce que t'es belle.
Vous avez croisé Anna Karina, Juliette Binoche?
Oui, je l'ai croisée sur une île, Belle-Île.
Ouais.
On avait passé une soirée ensemble. Elle était très, très belle et touchante, assez fragile aussi, et avec son chapeau, mais heureuse d'être là, aimant la vie. Oui.
Vous nous parliez d'un rapport entre Carax et elle.
C'est vrai qu'au début, quand on s'est connus avec Léos Carax, il m'avait parlé évidemment de cette relation entre Anna Karina et Godard. Je lui ai dit, écoute, peut-être que toi tu veux être Godard, mais moi je veux pas être Anna Karina. Et c'était comme ça. C'était bien répondu, comme on dit.
Ouais,
mais,
bien lancé, ouais.
Mais à la fois, je comprenais la fascination. Ouais. Mais lui, il avait besoin d'être amoureux pour filmer.
Les sorties de la semaine, on va commencer par Notre-Dame de Valérie Donzelli. Maud Crayon, architecte, mère de deux enfants, remporte sur un énorme malentendu le grand concours lancé par la mairie de Paris pour réaménager le parvis de Notre-Dame. Là, entre cette nouvelle responsabilité, un amour de jeunesse qui ressurgit et ses enfants qu'elle n'arrive pas à gérer complètement. C'était tourné, bien sûr, avant l'incendie, comme un témoignage aussi patrimonial, Laurent.
Oui, comme dirait Michel Blanc, sur un malentendu, tout est possible. Ouais. Mais là, en l'occurrence, Donzelli renoue vraiment avec la grâce et le charme de ses premiers films. Après, il faut bien le dire, deux ou trois tentatives d'univers improbable qui nous avait beaucoup moins séduit. Cette fois-ci, elle fait, comme elle le dit elle-même, une comédie sur la reconstruction à tous les sens du terme, puisqu'il y a notamment au centre du film, et c'est extrêmement drôle, le projet architectural de refaire le parvis de Notre-Dame. Et là, Philippe Meuret, dans sa tombe, doit être aux anges, parce que franchement, ce qu'elle dit sur la mairie de Paris, sur les architectes fous, sur le grand n'importe quoi de l'art contemporain parfois, c'est extrêmement réjouissant, et elle s'en donne à cœur joie, elle a bien raison, avec une distribution qui est XXL, Bouly Lanners, Isabelle Candelier, Philippe Catherine, Claude Person, j'en oublie, c'est vraiment de ce point de vue-là, et Samir Guesmith, c'est vraiment de ce point de vue-là un film absolument parfait. C'est foutraque, c'est déglingué, ça chante, ça danse, ça vibre, ça vit. C'est vraiment le film idéal pour cette fin d'année. Notre-Dame de Valérie Donzelli. Et je signale au passage que la petite maison d'édition qu'on aime bien, Playlist Society, vient de sortir Valérie Donzelli, Le tourbillon de la vie de Thomas Messias et Quentin Mével. C'est à lire, c'est un entretien avec elle.
Après la nuit, un premier film du réalisateur roumain, Marius Olteanu. Dana et Arthur, la quarantaine, sont mariés depuis près de 10 ans, mais quelque chose s'est fissuré à cause de leurs besoins, de leurs croyances, de ce que la vie leur offre, de leurs démons intimes.
Oui, alors c'est un film en trois parties. Première partie, elle. Deuxième partie, lui. Troisième partie, elle et lui. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'on s'intéresse d'abord au personnage féminin, puis à son mari, le personnage masculin, puis on fait la synthèse, et c'est la troisième partie qui fait cette synthèse-là. Alors de ce point de vue-là, c'est le portrait d'un couple en crise avec son lot d'interrogations sur le mensonge, la routine, la solitude à deux, l'injonction d'avoir des enfants, y compris le refoulement de l'homosexualité. Bon, tout ça est assez connu, et le problème, c'est que à force de multiplier ces espèces de tics de langage formaliste, dont la répartition ternaire, mais plus grave encore, entre guillemets, le rétrécissement par exemple, ou l'ouverture de l'écran ou du cadre du format, ça franchement ça ne marche pas, et le film devient un objet absolument clos, absolument en vase fermée, devant lequel le spectateur tourne et s'ennuie.
D'accord. The Lighthouse de Robert Eggers, noir et blanc, format carré. Huit clos, deux grands acteurs, Willem Dafoe, Robert Pattinson. Deux gardiens de phare sur une île mystérieuse et reculée de la Nouvelle-Angleterre dans les années 1890. L'histoire vraie d'une tragédie survenue à l'époque. Deux gardiens de phare gallois, tous deux prénommés Thomas, se sont retrouvés coincés dans leur phare pendant une tempête. Lorsque le plus vieux meurt dans un accident, l'autre devenu fou et persuadé que tout le monde allait l'accuser. Mais Eggers s'en éloigne, garde l'intrigue minimaliste avec cette idée. Rien de bon ne peut arriver quand deux hommes sont isolés dans un grand phallus. Beaucoup d'inspiration dans ce film, Melville et Stevenson, et pour les monologues Shakespeare et pour l'absurde Beckett, plus une langue fin 19e, un dialecte argot de la marine complètement maîtrisé par ces deux acteurs, un gradé et son sous-fif, bref, une exploration de la folie, un ovni dans le cinéma américain, ça c'est vraiment une bonne nouvelle, et une épreuve pour ses protagonistes, et un peu parfois pour nous quand même.
Laurent. Oui, moi je partage, oui. Formellement, ça ressemble à une sorte de BD extrêmement graphique, mais ça ne passe pas beaucoup la rampe de l'émotion, par exemple.
Mais quand même, ces deux acteurs sont assez extraordinaires, surtout la surprise de Pattinson. Non, on le savait moins pour Pattinson.
Ouais.
Talking About Trees, de Suab Gasmelbari, c'est un chercheur, qui s'intéresse aux archives, et d'ailleurs, grâce à lui, des films sont ressortis, des films perdus.
Ben oui, c'est un premier long métrage documentaire de ce cinéaste effectivement soudanais. En fait, il suit quatre tontons fringants du cinéma soudanais qui ont chacun 70 ans, vous voyez, donc c'est pas mal, ça fait une belle jeunesse, et qui essayent, tant bien que mal, de on va dire, réinjecter le cinéma dans la société soudanaise, en proie, vous le savez, aussi à l'intégrisme religieux. Donc tout ça n'est pas très facile, tout ça est même très très compliqué, et ça donne un documentaire en même temps plein de vie, plein d'allant, plein d'énergie pour essayer donc de contrecarrer toutes les difficultés, tous les bâtons dans les roues, avec beaucoup de références cinématographiques à Godard par exemple, mais aussi à Charlie Chaplin, dont on entend un extrait du temps moderne avec le chant religieux derrière. Donc il y a des juxtapositions comme ça, qui sont des rencontres improbables et qui font tout le charme de ce film.
Ça s'appelle Talking About Trees. Parole de bandit, c'est un documentaire de Jean Boiron-Lajoux. Depuis la fermeture de la frontière entre la France et l'Italie en 2015, la vallée de la Roya est devenue le symbole de l'insoumission. Les migrants bloqués à 20 000 continuent de passer en déjouant barrages et contrôles, aidés par certains habitants de la vallée, Laurent.
Bon, c'est pas le premier documentaire qu'on voit au cinéma sur ce sujet, mais c'est assurément un documentaire nécessaire, utile, parce que ben voilà, il faut parler de ces réalités qui fait que ces étrangers comme on dit, qui essayent de venir en France, sont évidemment pas très bien traités par les autorités, et beaucoup mieux traités par des militants qui ont décidé que il valait mieux protéger certaines valeurs que les lois de la République parfois imparfaites. Et le film montre le combat quotidien de ces hommes, de ces femmes et de ces migrants confrontés effectivement à cette forme de violence, avec beaucoup de références Sartre, Camus, Régis Debray, le propos est tout à fait maîtrisé dans un cadre naturel, évidemment, absolument sublime. C'est ça aussi qui fait l'incroyable de la chose.
Juste à indiquer que Drôle de Drame ressort de Marcel Carné.
Il faut toujours revoir Drôle de Drame.
Et vite, deux cadeaux pour. Alors, je vais commencer par le plus petit.
Ah, on commence.
Pour vous, Juliette Binoche, John Crawford, Hollywood Monster de Maxime Donzel chez Capricci Story. Petit livre, grand monstre, tout ce qu'on a pu vous raconter sur elle est vrai et même au-delà, classé parmi les 50 plus grandes méchantes de l'histoire du cinéma.
Lire avant le film.
Non, justement pas. Il va mieux pas.
Parce que les rapports entre la fille et la mère sont un peu compliqués.
Quand on a reçu ce coffret, Juliette Binoche, on s'est dit, ça, c'est pour Juliette Binoche, il faut absolument qu'on appelle Carlotta, l'éditeur, pour l'offrir à Juliette Binoche et le dire aussi à nos auditeurs. Ozu en 20 films, s'il vous plaît.
Voilà. Bon, quel bonheur.
C'était un peu ça qu'on attendait. Le dialogue n'avait pas été écrit à l'envers, on espérait ça.
C'est un super beau cadeau, je suis super contente.
Je redis, 20 films, 20 DVD chez Carlotta, évidemment, de Voyage à Tokyo jusqu'à Les Raretés comme Le Fils Unique.
Merci. Hein, je suis contente d'être venue. Hein, excusez-moi.
Merci d'avoir été là, Juliette Binoche, à l'affiche de.
Et courez voir de la vérité de Coréda. Courez, vraiment.
Et on embrasse Catherine Deneuve.
Oui.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma. Il y a des réalisateurs et des acteurs, il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs. Les prises de vue sont des prises de son. Sporto Cantès a écrit la musique du générique. Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez. Ophélie Vivier s'est occupée de la préparation. C'est une émission réalisée par Laurane Thomas et Claire Destacan. Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas. Et moi, je suis Juliette Binoche. J'y étais.